France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans les comptes publics européens ce soir.
Estamos creciendo 5 veces más que la media de la zona euro. Tenemos una de las inflaciones más bajas.
C'est l'espagnol Pedro Sánchez qui parle, ce sont ses questions au gouvernement, c'était le 20 mars dernier, il se félicite de ses résultats économiques et on va y venir. Bonjour Philippe de Sertine.
Bonjour Fabienne Sintès.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 1, vous êtes directeur de l'Institut des Hautes Finances, membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Ensemble on ira en Irlande et nous irons en Grèce également au cours de cet entretien. Alors on sait bien, Philippe de Sertine, que nos chiffres ne sont pas bons et on va pas revenir dessus. Ce qui frappe quand on se compare, c'est que sont passés devant nous des gens qu'on montrait beaucoup du doigt, c'est 10 dernières années, en tout cas il y a 10 ans avant qu'ils n'arrivent à se redresser. D'abord, est-ce qu'on peut dire que la France est mauvais élève ou est-ce que les comparaisons en fait ne sont pas bonnes conseillères?
Non, je crois qu'on peut dire qu'elle est mauvais élève. Je sais que ça fait mal, hein. On préférerait dire mais non, c'est particulier. D'ailleurs, c'est ce que dit le ministre de l'économie et des finances. Mais la France, cette année, va être, on va dire vraiment dans le peloton de queue, puisqu'il n'y a que l'Italie qui fait moins bien que
c'est
nous.
C'est vrai. Hein,
et donc nous, on est juste après. Alors après, vous avez plusieurs éléments. Quand on regarde le niveau d'endettement, évidemment, la Grèce a un niveau d'endettement plus fort que le nôtre. Mais néanmoins, quand vous regardez, non seulement on est dans le peloton de queue, mais surtout à la différence de tous les autres, à la limite peut-être la Belgique, mais qui a une dette sur PIB beaucoup moins forte que la nôtre, en fait on dégrade partout. C'est-à-dire tout est plus mauvais et on n'est avec aucun horizon positif. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins, pratiquement d'aucun de nos voisins.
Alors justement, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle évidemment de la même période. Donc oui. Tout le monde a subi les mêmes travers, tout le monde a subi le ralentissement chinois, s'il faut le mettre sur le dos du ralentissement chinois, tout le monde a subi la guerre en Ukraine, s'il faut le mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période qu'on n'a pas su faire nous? Est-ce qu'ils ont mieux anticipé que nous avons anticipé, nous?
Oui, sûrement. Ou peut-être, si vous voulez, la société française, on va dire, parce que peut-être faut pas accabler juste que le gouvernement. La société française est dans son ensemble, dans une sorte de déni. Et là, vraiment, je crois vraiment tous les partis politiques...
Vous croyez que c'est une spécificité française, les Portugais, les Espagnols, eux, ont pris peur sur leur dette, alors que nous, on se dit, non mais on s'en fout, on remboursera pas.
C'est un peu ça. Alors, attention, Fabienne Sintès, faut surtout pas dire ça, parce que là, on a les agences de notation qui nous tombent dessus.
On est d'accord,
je vous rappelle, on est encore noté WA, parce qu'on suppose qu'on rembourse justement. Non, ce que je crois en effet par rapport aux autres pays en difficulté de la zone euro, c'est que eux très vite ont compris que ça se résoudrait pas par l'emprunt supplémentaire. C'est-à-dire que l'emprunt supplémentaire, d'une part, ils n'étaient pas sûrs de l'avoir, et d'autre part, il serait de plus en plus cher. Du coup, ça les a amenés à réfléchir à des réformes structurelles, parfois très douloureuses. On va évoquer évidemment le cas de la Grèce, où là, alors pratiquement, il n'y avait plus d'issue. Et évidemment, il ne s'agit pas d'arriver à cette ultime extrémité, mais cette idée qu'il fallait d'abord qu'on travaille chez nous est une idée fondamentale que les Français pratiquement refusent par principe. Hein, si on va dire, si vous avez un déficit, vous avez trois solutions. La première, géniale, c'est la croissance, ça, c'est celle que cherchent toujours les Français. La deuxième, facile, c'est l'augmentation des impôts. Les Français sont très très bons. Là, on est pour le coup avec le taux d'imposition, vous voyez, par rapport aux autres, le plus élevé de l'OCDE, on peut dire, du monde. Hein, donc, si on exclut peut-être la Corée du Nord ou des pays comme ça. Mais on va dire, c'est nous qui avons le prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Et le troisième, évidemment, c'est la réforme de la manière dont vous concevez vos dépenses publiques. C'est-à-dire penser le service public en disant attention, peut-être effectivement qu'aujourd'hui il coûte trop cher.
Une autre question avant d'aller en Irlande. Est-ce que l'une des raisons pour lesquelles on a regardé, nous, les choses différemment de nos voisins portugais, nos voisins espagnols, peut-être même nos voisins italiens, etc., c'est que eux savaient que les investisseurs allaient les lâcher, alors que nous avions toujours une bonne dette et que nos investisseurs étaient toujours là. Donc l'urgence n'était absolument pas la même pour réparer finalement.
Oui, vous avez raison. Ça, c'est le premier confort que nous avons, c'est d'être associé à l'Allemagne. C'est-à-dire, le grand couple franco-allemand, il joue beaucoup en matière financière. En plus, ça tombe bien pour les investisseurs qui cherchent de la bonne dette. C'est-à-dire, vous voyez, la bonne dette, c'est un pays qui n'est pas trop justement avec de la dépense publique et avec beaucoup d'exportations.
Mais ce que ça veut dire, c'est que l'urgence de redressement des autres et qu'on a vu était bien plus prégnante que la nôtre,
oui,
en fait, à ce moment-là.
On est en quelque sorte, vous voyez, dit autrement, passager clandestin, un peu du navire euro, mais un gros, gros passager. Et puis l'autre aspect important aussi, c'est le fait que nous ne voulons pas toucher à, j'irais, nos dépenses publiques, c'est-à-dire structurellement. Le principe d'un politique, c'est qu'il doit rajouter du crédit pour montrer qu'il s'en occupe. Alors que, il faut le rappeler sans cesse, nos services publics ne fonctionnent pas bien.
Alors allons-y chez nos voisins et commençons par ce pays très particulier qu'est l'Irlande. Bonsoir Clémence Pénard.
Bonsoir Fabienne.
Merci Clémence d'être avec nous. L'Irlande, donc Clémence, qui fait figure de bon élève, le pays qui a même dégagé l'année dernière un excédent de 10 milliards d'euros. On ne parle pas de dette, on parle d'excédent de 10 milliards d'euros. Des résultats qui font pâlir un peu d'envie quand même, effectivement, les voisins européens.
Oui, l'Irlande, ce tigre celtique que l'on comparait aux dragons asiatiques comme Hong Kong ou la Corée du Sud a clairement gagné son pari fiscal des années 90. La première explication réside dans son taux d'imposition sur les sociétés à seulement 12,5%. L'Irlande a ainsi lié son destin aux géants du numérique il y a une trentaine d'années déjà. Google, Amazon, Meta, ils ont tous choisi de s'installer à Dublin. Et puis plus récemment, après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Irlande est devenue le seul pays anglophone au sein de l'UE. Le Brexit a donc été un autre atout pour attirer les entreprises étrangères.
Ça veut dire un vrai chemin parcouru, Clémence, pour l'Irlande, en dépit de la crise financière en 2008 qui avait frappé extrêmement fort.
Et oui, aujourd'hui, la question, c'est même de savoir quoi faire de tous ces excédents budgétaires. Le gouvernement irlandais a annoncé vouloir épargner une partie de cette somme. L'idée, ce serait, malgré donc cette ultra-dépendance aux GAFAM, d'être prudent et d'avoir en quelque sorte un matelas en cas de ralentissement économique. Mais beaucoup appellent plutôt à dépenser ces fonds immédiatement pour résoudre la terrible crise du logement à laquelle l'Irlande est confrontée en ce moment.
Voilà, dépenser immédiatement ou se fabriquer un petit bas de laine. Philippe de Sertine, il y a quelque chose de très particulier dans cet exemple irlandais, à cause ou grâce aux GAFAM. Donc ça veut dire que ça tient à quoi, en fait? En gros, si demain elles partent, c'est l'effondrement en Irlande ou pas?
Alors, d'abord, c'est pas l'effondrement, parce que donc, vous voyez, en 2013, la dette publique irlandaise représentait 140% du PIB. Alors, peut-être ceux qui nous écoutent ont on un peu marre de toutes ces statistiques, mais quand même, 140%, c'est-à-dire c'était vraiment énorme. La France est à 112%. Là, on était vraiment dans une situation critique. Cette année...
42, c'est ça?
Exactement. Ouais, ouais. L'année prochaine, prévue à 40. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait... Entre parenthèses, la France bénéficie de ça, hein, parce que évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure de l'attractivité de la zone euro, c'est parce que heureusement, plein d'autres pays ont beaucoup moins de dettes que nous, et donc du coup, pour les investisseurs, on dit waouh, c'est une zone sûre, quoi.
Mais bon, il paraît qu'on dit aujourd'hui en Irlande que la notion de PIB ne s'applique même pas, parce que tout ça est tellement lié aux GAFAM que ça n'a plus de sens en fait, et c'est même incomparable avec tous les voisins et,
oui,
et
alors,
même au-delà.
Attention quand même, parce que quand on dit PIB, quand on dit GAFAM, vous voyez, ils sont pas implantés en Irlande complètement, hein. C'est-à-dire que là, peut-être. Quand même, ce qui nous fait mal aussi, c'est de dire au fond, la solution pour
c'est
restaurer...
leur base fiscale.
Exactement. Ouais. C'est de baisser l'impôt. Mmh. C'est-à-dire, et là, quand on est en train de dire, voyez, lié aux GAFAM, c'est-à-dire, ce sont les impôts que paient les GAFAM. Hein, c'est-à-dire, c'est ça qui vous permet d'avoir une réduction de la dette avec, effectivement, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est une augmentation du PIB, c'est-à-dire de l'activité qui est faite sur le territoire. Donc, l'attractivité fiscale fait aussi cet aspect-là. Donc, là, on est avec, d'ailleurs, parfois, les autres européens. Alors, la France a souvent été, je dirais, celle qui est montée au créneau pour dire les Irlandais ont un impôt beaucoup trop faible, c'est presque une logique,
et on va dire... une sorte de concurrence déloyale.
Oui, bien sûr. Hein. Et donc là, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que là, l'Irlande... Mais vous voyez, on est vraiment dans l'approche européenne dans laquelle les Irlandais ont dit très clairement, moi je les ai entendus au niveau de la Commission européenne, en disant, on veut pas d'aide, en revanche, on va se débrouiller pour rééquilibrer nos comptes nous-mêmes. Mais évidemment, ne nous tapez pas dessus si effectivement nous attirons un certain nombre d'entreprises avec un impôt faible. Vous allez voir ce que vous allez voir. Effectivement, il faut reconnaître, en 10 ans, c'est incroyable et c'est extrêmement spectaculaire.
Alors, dans le même laps de temps, le Portugal, 133% de dette publique en 2013, on est sous les 100 aujourd'hui.
Exactement.
Excédent budgétaire également. L'Espagne, on n'oublie pas quand même que tous ces gens ont quand même eu des traitements de cheval.
Oui.
Donc, quand je demandais si comparaison était raison, je me demandais aussi si on regardait ces chiffres-là ou si on regardait niveau de vie. Et là, on se retrouve quand même dans des différences, y compris nous, avec notre dette abyssale, qui sont, on a des niveaux de vie qui sont largement plus élevés que ces pays-là, quand même, non ?
Alors, attention, hein, je dirais...
Enfin, largement.
Oui,
en tout
mais
cas,
pas si largement que ça. Et avec, toujours pareil, hein, quand on parle de la situation française, il faut se regarder dans la glace. C'est-à-dire, par exemple, avec un niveau de pauvreté qui est vraiment sensiblement le même que tous ces pays d'Europe. Ça veut dire 10 millions de pauvres en France.
Hein,
et concrètement, c'est pas que des statistiques, ça.
Hein,
ça veut dire, effectivement, un modèle français qui, en fait, ne marche pas, on va dire, comparativement à l'énorme effort financier qui suppose. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que derrière, vous avez eu une adhésion de la population. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut des politiques qui aient le courage, mais il faut des citoyens qui aient l'envie que, véritablement, on ne détériore pas pour le futur la situation du pays. Et ça, c'est la vraie question sur la France.
Alors, ça a été plus difficile, notamment pour le pays qui est toujours un peu le symbole de la crise de la zone euro, qui était la Grèce. Bonsoir, Angélique Kourounis.
Bonsoir Fabienne.
Merci d'être avec nous Angélique, vous êtes à Athènes, la dette publique grecque elle est encore élevée, hein, autour de 170% du PIB, mais elle se résorbe. Côté déficit, la Grèce fait mieux que la France, hein, 2,1 seulement, enfin moins 2,1 évidemment. Comment est-ce que les Grecs ressentent cette amélioration des finances publiques Angélique ?
À vrai dire, ils ne la sentent pas au quotidien. Ils ont vraiment toujours ce sentiment d'avoir été punis par les mémorandums d'austérité imposés par les créanciers du pays pour avoir refusé cette austérité par référendum. Trois mémorandums qui ont mis le pays à genoux pendant 10 ans. Depuis, vous l'avez dit, le pays a renoué avec une reprise, mais les salaires, les retraites, les aides sociales qui ont pratiquement été réduits de moitié, je rappelle que les retraites ont été baissées 13 fois, n'ont jamais, malgré l'amélioration des finances publiques, retrouvé leur niveau d'avant-crise. Le PIB, qui avait chuté de 25% durant la crise, n'a pas non plus remonté la pente. Mais si les finances publiques se sont améliorées, c'est essentiellement parce que les créanciers de la Grèce, l'Union européenne, le FMI et les marchés ont choisi de faire confiance, de donner toutes ces chances à l'actuel Premier ministre qui fait partie de leur famille politique, libérale, ce qu'ils n'ont pas fait pour Alexis Tsipras, Premier ministre de gauche durant la crise économique, qui a duré 10 ans. Et bien au contraire, pourtant, quand il a perdu les législatives en juillet 2019, la Grèce était sortie de la crise et les caisses publiques étaient pleines.
Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, Angélique, oui, aujourd'hui, la Grèce va mieux?
Oui, c'est indéniable. Les grands indicateurs, chômage, investissement, reprise sont plutôt bons. Mais il faut regarder de plus près. Si le chômage baisse, c'est grâce à des petits boulots en CDD, pas à cause de la création de vrais emplois. Le SMIC et les retraites ont été sérieusement augmentés, mais l'inflation a fait disparaître cette augmentation. Enfin, la confiance des marchés a fait venir des investissements, mais essentiellement dans le BTP, le tourisme. Il n'y a toujours pas d'implantation d'usines créatrices d'emplois. L'économie grecque, qui n'est pas restructurée, se base toujours sur le tourisme, qui entre pour 25% dans le PIB. Et la marine marchande qui, elle, s'essouffle. Alors, autant dire que l'économie grecque est en reprise, mais elle reste extrêmement fragile.
Angélique Kouronis avec nous depuis Athènes. Merci beaucoup. Quand on regarde les choses un peu rétrospectivement, Philippe de Sertine, on se dit quand même, c'est vrai qu'on leur a fait du mal. Est-ce qu'on se dit ça ou pas?
Oui.
Ça a été très, très rude.
C'est vrai qu'on a été à deux doigts d'avoir, pour la première fois, l'explosion de la zone euro par l'excédent de dette d'un partenaire. Alors, pourquoi ça n'a pas explosé? Pourquoi on a dit, en fait, on continue ensemble? Parce que là, ça aurait été une ruine beaucoup plus importante, ça a été le fait que c'était un petit pays. Juste, je rappelle ça, parce que, évidemment, quand on dit la France peut-elle être la Grèce? Non, c'est trop gros. Mais le vrai danger, c'est ça, c'est qu'à terme, nous ayons des distorsions telles dans la zone euro, ce que les Grecs ont... Je dirais, la population grecque et les politiques grecques, parce qu'on vient de parler effectivement d'Alexandre Tsipras, ce qui a été un peu la même chose d'ailleurs avec l'approche italienne, c'est que les extrêmes, quand ils arrivent au pouvoir, peuvent arriver avec un espoir de baguette magique, mais après ils ont assumé. C'est-à-dire que Tsipras a assumé son rôle de Premier ministre, y compris dans la potion très amère qu'il a fait passer à une population qui n'avait pas voté pour cela au départ.
Et alors, le moins qu'on puisse dire, mais même voté pour l'inverse. Une dernière question, Angélique Kouronis parlait d'investissement tout à l'heure, et je reviens du coup à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que les investisseurs ont plus confiance en nous avec notre déficit qui plonge qu'en Grèce, qui est en train effectivement de se remonter, mais qui de toute façon rame toujours? Ce qui fera qu'à la fin, de toute façon, ce sera toujours plus facile pour nous que pour eux.
Alors,
est-ce qu'on peut le dire comme ça?
La Grèce est revenue sur les marchés. Ça veut dire que ça s'améliore sans arrêt et qu'elle est de moins en moins, on va dire, sous perfusion. Ce qui est vrai pour nous, c'est ce lien fondamental avec l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle les investisseurs nous prêtent de la sorte. Parce que si nous étions tout seuls, et quand on dit tout seul, vous voyez, c'est pas complètement une utopie, puisque parfois, du point de vue politique, on a un peu rêvé à ce retour d'être tout seul. On aurait une énorme dévaluation de la monnaie, ça fait aucun doute, on a tous les éléments économiques qui le prouvent, et des conséquences en termes économiques très très lourdes. Donc ça veut dire que pour le moment, tant que le mariage franco-allemand de raison, maintenant, beaucoup plus que d'amour tient, en réalité, nous avons toujours des bonnes conditions.
Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Philippe de Sertine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.